C'est la revue de presse tous les jours sur Radio Classique. Bonjour Marc Tédé.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et on commence cette revue de presse par des photos choc.
Oui, des photos de la guerre à Gaza publiées par Libération, comme celle de cette mère serrant dans ses bras l'un de ses enfants tué dans un bombardement, tout juste enroulé dans un linceul. Elle est entourée de son mari et d'un autre de ses enfants. On aperçoit leurs larmes, on lit la douleur sur leur visage et on croit même entendre leurs cris. Après 6 mois de guerre, l'enclave reste fermée aux reporters étrangers. Ces clichés ont été pris par des photographes palestiniens et rassemblés par le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU. On découvre sur d'autres clichés un champ de ruines dans le quartier d'Al-Rima à Gaza, autrefois quartier résidentiel. Une nuée d'enfants, gamelles à la main, collés à une barrière. Ils tentent de glaner de la nourriture lors d'une distribution alimentaire à Rafah. Ou encore cet adolescent qui peine à se brosser les dents après avoir perdu sa main droite arrachée par un obus de char dans l'école où il s'était réfugié. Ces photos resteront dans l'histoire comme la preuve que ce cauchemar a bien eu lieu, explique l'éditorialiste de Libération Alexandra Schwarzbrod. Cauchemar qui a débuté, dit-elle, le 7 octobre avec les massacres commis en Israël par le Hamas et poursuivi avec le bombardement par Tsahal d'une population sans défense.
En France, pour consolider le soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron remet la pression sur les industriels de l'armement, rapporte Les Échos.
Oui, la poudrerie de Bergerac est décidément tendance, ironise le quotidien. Le président s'y rend demain. Le ministre des Armées y était il y a 10 jours. Le chef de l'État a aussi convoqué demain les dirigeants des principaux groupes d'armement français pour faire le point. Il faut dire qu'aux yeux de l'Élysée, le site de Renko fait figure d'élève modèle en quelque sorte. Un exemple de relocalisation et réindustrialisation, de lutte pour la souveraineté française et d'accélération de la production d'armes, autrement dit la fameuse économie de guerre. Le gouvernement a récemment publié un décret qui lui permet d'imposer des stocks minimaux aux industriels sur le mode de la réquisition ou d'obliger les sous-traitants à donner la priorité aux commandes de l'armement.
Dans Le Parisien, Stanislas Guérini dit vouloir s'attaquer à un tabou.
Oui, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique veut lever effectivement le tabou du licenciement dans la fonction publique. Les mots sont pesés, peut-on lire dans Le Parisien. En creux, le message est le suivant, dit Le Quotidien. L'emploi à vie n'est pas un totem. Le document de cadrage présenté hier aux partenaires sociaux par le ministère interroge. Les employeurs et les managers sont-ils suffisamment outillés pour prendre en compte l'insuffisance professionnelle dans le déroulé de carrière? Quelle possibilité d'une réponse graduée? Et Le Parisien de s'interroger cette fois. Est-ce une nouvelle offensive visant à remplir les caisses de l'État à l'heure où l'exécutif est sévèrement rattrapé par un dérapage, selon le terme d'Emmanuel Macron, des comptes publics? Le ministre s'en défend et évoque des mesures d'efficacité, pas des mesures budgétaires.
La question du budget et des comptes publics qui continue d'alimenter les tensions entre Emmanuel Macron et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, comme on en parlait avec Guillaume Tabar il y a quelques minutes. La Ligue des champions de football, Marc Tédé, occupe une bonne place à la une de vos journaux aujourd'hui.
Oui, et pas simplement pour des raisons sportives. Surveillance renforcée autour du Parc des Princes, nous dit Le Parisien. Paris reçoit en effet le FC Barcelone en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, mais Daesh fait souffler, un vent de panique sur ces quarts, titre Le Figaro. Inquiétude partout en Europe après la diffusion d'un message de menace sur la compétition de la barre de la branche afghane de l'organisation terroriste, la même que celle qui a commis l'attentat dans une salle de concert de Moscou le 22 mars dernier avec plus de 140 morts. Le Figaro précise que le message de menace fait cette fois explicitement référence à plusieurs stades, dont le Parc des Princes et l'Emirates Stadium de Londres, ou encore le Santiago Bernabéu et le Metropolitano, tous les deux à Madrid.
En attendant, sur le terrain, les Parisiens rêvent de laver l'affront de 2017.
Oui, avec cette élimination par le même FC Barcelone et malgré une large victoire au match aller, cette fois on y croit, à titre Le Parisien. Ce match pourrait marquer le début de la tournée d'adieu de Mbappé, souligne Le Quotidien.
Deux femmes battantes pour terminer cette revue de presse.
La première s'appelle Emmanuelle Marie. Libération consacre son portrait de dernière page à cette pêcheuse artisanale dans la Manche. Une toute petite voix et un corps poids-plume, écrit notre consoeur, mais une force physique et une endurance hors normes nécessaires pour un travail dur et rapide, comme remonter un à un des casiers dans une mer agitée. Chez les pêcheurs, il y a un danger de mort qui plane constamment au-dessus de nos têtes, dit-elle. Elle porte un vêtement de flottabilité intégré, mais confie être bien la seule dans ce ce milieu, regrettant que la sécurité ce soit une affaire de bonne femme. Cette quadragénaire, arrivée sur le tard dans le métier, veut faire de la pédagogie. Elle est suivie par 13 000 personnes sur Instagram. Parmi ses combats et ses indignations, le surimi, le poisson d'élevage et les fermes à saumon, ou encore ces règles post-Brexit qui interdisent l'accès des pêcheurs français aux eaux anglaises. 75% des prises d'Emmanuel Marie partent en Espagne parce que les Espagnols ont, dit-elle, une vraie culture de la mer. Elle regrette que les Français mangent du saumon, du surimi justement, et du cabillaud congelé.
Et bon petit déjeuner, bien sûr. Et puis dans le Parisien, Marc, une double championne du monde de course à obstacles, se lance à l'assaut de la Tour Eiffel.
Anouk Garnier, elle espère atteindre le deuxième étage de l'édifice en grimpant à la corde, une corde de 110 mètres, jetée au centre du parvis de ce monument. Elle espère cette fois battre le record de l'ascension à la corde la plus longue, rien à voir donc avec sa discipline initiale. Mais après son double titre de championne du monde de course à obstacles en 2022, cette coach sportive professionnelle voulait se lancer un nouveau défi. Et pourtant, à l'époque, elle était incapable de monter plus de 5 mètres à la corde. Quand j'ai un objectif, dit-elle, c'est une obsession. Et on la croit volontiers.
Merci beaucoup Marc Tédé. On grimpe au sommet de la Tour Eiffel grâce à vous. Et dans quelques instants, les esprits libres. Sophie Obadia et Marc Lambron. Merci Marc Tédé. 8h38.